Intervenez.
Au 01 45 24 7000, Baptiste nous appelle de Paris, bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, je fais partie de ces malheureux indécis.
Ah.
Et je suis un peu embêté de devoir réfléchir à mon vote par pur calcul, mais j'avais quand même une question.
Baptiste, vous n'êtes pas seul. D'abord, sachez-le.
Merci. Mais bien malheureux quand même.
Alors, dites-nous.
Ma question, si M. Mélenchon accède au second tour et qu'on a, même s'il semblerait que ce ne soit pas le pronostic de M. Laurent, un binôme Mélenchon contre Le Pen, est-ce que ce n'est pas finalement un boulevard offert à Marine Le Pen que d'avoir M. Mélenchon, qui quand même est plutôt clivant, et où j'imagine mal un électeur de M. Fillon aller voter pour M. Mélenchon. Et donc, est-ce que ce vote pour Mélenchon au premier tour ne serait pas finalement contre-productif sur le barrage à faire, à mon avis, au Front National ?
Pierre-Laurent, merci. Bon, Baptiste.
Merci de votre question, Baptiste. Je ne crois pas que ce serait que le danger que vous dites se présenterait. D'abord, il y a des sondages qui sont faits, qui montrent que Mélenchon est vainqueur au deuxième tour face à Marine Le Pen dans toutes les enquêtes qui sont faites. Mais pour une raison, je crois, essentielle, c'est que sur quoi a prospéré Marine Le Pen ? Sur précisément l'absence d'espoir pour les milieux populaires. Le fait que, quel que soit le candidat qui était présenté face à elle, eh bien, il promettait des sacrifices supplémentaires, l'écrasement des dépenses publiques, la mise en cause de tout ce qui fait la possibilité de développement social pour les salariés de notre pays. Et je crois qu'au contraire, ces gens-là vont retrouver de l'espoir si enfin se présente la possibilité d'une politique de gauche qui soit à nouveau une politique de justice, de progrès social et aussi une politique de nouveau développement écologique, d'une nouvelle industrialisation de la France différente de l'industrie productiviste et ultra-concurrentielle qu'on a aujourd'hui. Donc je crois que ça libérerait des énergies qu'on ne voyait pas jusque-là se manifester. Donc je crois que l'élan de confiance qui se créerait serait très important. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure, je crois qu'il y aurait un débat à ce moment-là très important sur le rôle de la France dans le monde. Je crois qu'une présidence de Marine Le Pen serait une présidence extrêmement dangereuse pour la paix. Et alors que le projet de Jean-Luc Mélenchon, il a d'ailleurs consacré son discours à Marseille à cette question, pourrait être un projet de paix pour la France.
Vous ne trouvez pas qu'il y a des ambiguïtés dans le discours international de Jean-Luc Mélenchon concernant l'attitude en Syrie face à la Russie de Poutine, Pierre-Laurent?
J'ai écouté le discours attentivement. Dimanche, j'étais à Marseille. Ce discours m'a satisfait pleinement.
Il vous a rassuré parce que vous n'aviez pas tout à fait les mêmes...
Il m'a rassuré, voilà, si vous voulez employer cette expression.
Non, mais c'est parce que je sais que vous n'aviez pas tout à fait la même vision, notamment de Vladimir Poutine
la semaine dernière,
au moment de la Syrie.
La semaine dernière, nous avons tous les deux, Jean-Luc Mélenchon de son côté et moi-même dans mes déclarations, été parfaitement convergents, à la fois sur la dénonciation de l'attaque chimique et sur la désastreuse riposte du bombardement américain. Et je pense qu'effectivement, personnellement, ma conviction est faite, le rôle que devrait jouer la France devrait de reprendre l'offensive sur le terrain de la paix et de cesser avec les escalades guerrières. Et on voit bien que la tension qui est en train de se créer entre la Russie et Trump est particulièrement dangereuse pour la paix du monde. Et je crois que la France, qui est membre du Conseil de sécurité, a un rôle essentiel à jouer pour ça.
Joël nous appelle de Gironde, du Médoc. Bonjour Joël.
Oui, bonjour. Je vous appelle à côté de Bordeaux, dans le bas Médoc, hein, pour les spécialistes qui aiment bien le vin.
Très bien.
Donc voilà ma
J'en
question.
Fais partie, monsieur.
Bonjour. Donc ma question, moi, c'est pas par rapport au présidentiel, mais c'est pour les législatives.
Important.
C'est un cas très concret puisque ça concerne la circonscription dans laquelle j'habite. Voilà. Il va y avoir deux candidats différents alors que leurs organisations ont appelé à voter Mélenchon pour les présidentielles. C'est-à-dire que la France Insoumise va présenter sa candidate et puis le Parti Communiste va présenter son candidat. Donc là, moi, je me pose une question. Est-ce que pour les législatives, c'est chacun pour soi et la machine à perdre, elle est en marche? Ou est-ce que vous voulez vraiment que réussisse le projet de Mélenchon, même s'il y a plein de choses à discuter, à débattre, et puis parfois même à dénoncer? Mais toujours est-il qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de gens qui attendent autre chose en ce moment, qui souffrent dans leur entreprise, qui souffrent dans leur service. Et donc, voir que des candidats qui se revendiquent de la classe ouvrière se présentent en ordre dispersé, moi je pense que la machine à perdre, là, elle est en train d'être en marche, et je trouve que c'est inadmissible, puisque les résultats, je suis prêt à prendre le pari que les résultats des deux candidats, s'ils se continuent à se maintenir, seront inférieurs aux résultats du candidat unique du Front de Gauche qui s'était présenté il y a 5 ans. Donc voilà, est-ce qu'il y a volonté délibérée de jouer chacun pour soi, ou est-ce qu'il vous avez vraiment une volonté de réparer encore les choses et de vous présenter véritablement unis pour lutter justement contre les Le Pen, Fillon et compagnie, je rajoute Macron et compagnie.
Merci voilà. Joël. Merci Joël. Oui, c'est une concurrence qui n'est pas isolée, vous le savez Pierre-Laurent.
Oui, bien sûr. Mais je voudrais donner un peu de confiance à notre auditeur. Ce qui est en route en ce moment, c'est pas la machine à perdre, c'est la machine à gagner. Et je crois que la dynamique, si elle va aussi haut que je le souhaite à l'élection présidentielle, nous mettra alors devant une responsabilité commune, qui est de créer les conditions d'une majorité parlementaire. Parce que pour gouverner, il faudra une majorité parlementaire. Cette majorité parlementaire, elle va rassembler des forces diverses. Celles qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon, et probablement il faudrait à ce moment-là avoir d'autres forces qui rejoignent cette majorité et qui par exemple auraient jusque-là soutenu Benoît Hamon.
Oui, mais ça c'est dans l'hypothèse de l'élection de Jean-Luc Mélenchon.
Oui,
mais... Il y aura une majorité présidentielle, évidemment, ça c'est naturel.
Oui, mais cette majorité...
Mais dans l'autre... dans l'autre hypothèse... voilà, il y a des divisions. Mais France Insoumise investit beaucoup de candidats et vous-même, vous en avez investi.
Oui, mais ça n'est pas... Là, nous sommes dans une situation dans les élections législatives, je le répète, où alors l'enjeu sera de constituer une majorité parlementaire. Cette majorité parlementaire, elle devra compter des députés communistes et du Front de Gauche, des députés de la France Insoumise et peut-être d'autres forces qui viendront se joindre. Donc je crois que la dynamique qu'il faudra alors créer, c'est s'épauler sans se concurrencer bêtement. Et je pense que ce sera possible si chacun prend ses responsabilités dans cette situation. Donc nous sommes disponibles, évidemment, pour faire progresser cette situation. Je veux rassurer là-dessus notre auditeur.
Bon, donc ça n'est pas figé, il n'y aura pas forcément deux candidats dans cette circonscription-là.
Bien sûr, il y aura nécessairement à ce moment-là des discussions, en tout cas je le souhaite.
Vincent nous appelle de Nantes. Bonjour Vincent.
Allô. Bonjour.
Oui,
allô, excusez-moi.
Oui, vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons.
J'attends. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis un petit chef d'entreprise. Et, comment dire, en 2012, j'ai plutôt voté Sarkozy. Et puis, cette année, je réfléchis à la candidature de Mélenchon.
Ah.
Ouais. Je fais le grand écart parce que j'analyse un petit peu les choses. Et puis... j'ai lu donc le livre donc de Mélenchon qui me plaît beaucoup.
Lequel beaucoup, le livre dans, programme ou
le livre programme.
L'avenir en commun.
Voilà. Et donc il me plaît beaucoup parce que on a effectivement beaucoup d'idées qui vont dans le bon sens d'une respiration de la démocratie. Donc ça me va super bien. Ça me va super bien sur les questions environnementales. Parce que je crois que justement on a des viviers d'emploi, enfin de création d'entreprises énormes et puis surtout de perspectives de projets communs dedans. Par contre, quand je vois notre pays dans l'état où il est, avec les défis qu'on a à relever, moi je suis chef d'entreprise, quand j'ai des difficultés, qu'est-ce que je fais? Je fais des heures sup, je bosse comme un tordu, je vais chercher des clients, je rappelle mes clients, je suis sur le pont. Et il y a un truc qui me fait vraiment hésiter à voter blanc aujourd'hui, c'est qu'avec 32 heures et une augmentation du SMIC de 16%, j'ai l'impression que M. Mélenchon nous fait rêver avec des projets audacieux, et puis il met tout à la poubelle, parce que derrière, il fait croire aux gens qu'en bossant 32 heures, et en plus ils vont avoir une augmentation de salaire net à la fin du mois, on va y arriver. Et ça me fait vraiment peur, parce que j'ai vraiment l'impression que l'espoir de monsieur Laurent qui est chez vous, c'est plutôt, il confond avec plutôt rêve. C'est que le projet global, il est bon à 90%, Et je ne sais pas ce que viennent faire les 32 heures, parce que les 32 heures, pour moi, ça veut dire robot. Et ça m'amène à la question, et s'il arrive à bien répondre à cette question, ce monsieur, eh bien, à ce moment-là, je voterai pour Mélenchon.
Oh là là, quel enjeu.
Alors, vous allez voir.
Il vous écoute, il vous répond,
Je vais essayer de vous convaincre.
Attendez,
parce que c'est
j'ai une question. C'est la question.
Allez-y, il ne reste plus beaucoup de temps, allez-y.
Moi, pour moi, 32 heures, c'est égal arrivée des robots. Alors, pour que Monsieur Laurent me convainc, il faut qu'il m'explique comment, pour ne pas mettre de robots, comment on fait dans une entreprise comme la mienne, avec un salarié. Et puis, comme il va me dire que les petites entreprises, on va leur faire plein de bisous et que vous n'avez rien à craindre et on va vous donner des bonbons pour que ça passe, je vais lui demander de répondre à la même question avec une entreprise de 10 salariés, avec par exemple 2 commerciaux, 3 gars qui posent en chantier, une secrétaire, et etc., etc. Et puis, éventuellement, pour 50 salariés.
Bon.
Et je voudrais qu'il me le donne concrètement, comment il fait, et puis là, à ce moment-là, si on n'a pas besoin de robots,
bon.
Eh ben, je l'embrasse.
Vous avez fini votre liste de courses, Vincent. Merci.
Écoutez, je vais essayer de vous convaincre. J'ai peu de temps pour vous répondre, mais je pense que il y a plusieurs choses. Pour développer votre entreprise, vous l'avez dit, et je crois que c'est le cas de beaucoup de PME. Il faut de la dynamique économique. Il faut des projets pour le pays. Et il y en a. Vous l'avez souligné beaucoup dans le programme que nous avançons. Parce que ce dont nous manquons aujourd'hui, c'est des projets qui tirent vers le haut le pays et qui l'aident à se développer. L'investissement public, ce n'est pas le seul, c'est très important pour ça. La commande publique a baissé d'un quart en 5 ans, 25 milliards de moins. Mais derrière, c'est des milliers de petites entreprises qui ne peuvent pas travailler, qui voient leur marché se fermer. Ensuite, il faut changer le rôle des banques. Je ne sais pas dans quelle situation financière est votre entreprise, mais les banques ne sont pas au rendez-vous pour aider les PME. Il y a un rapport qui vient d'être adopté au Conseil économique et social sous l'impulsion d'un économiste de mon parti qui est membre de ça que je vous conseille parce qu'il contient une batterie de mesures d'aide aux PME, notamment dans l'accès au financement et l'accès au crédit, parce que l'attitude des banques de ce point de vue-là est scandaleuse.
Les 32 heures, les 32 heures.
Mais oui, je crois qu'il y a des gens qui travaillent trop et des gens qui ne travaillent pas assez. Il y a les deux dans notre pays.
Donc, vous croyez encore
donc, il faut
au partage.
Il faut faire converger les gens vers une norme de travail progressivement qui soit plus accessible et qui permette de donner du travail à tout le monde. Mais je crois beaucoup, sur la question que posait notre auditeur, moi je crois beaucoup au travail humain. Il y aura des robots, il y en aura probablement de plus en plus. Mais je crois très profondément au travail humain et mon parti, le Parti communiste, est un parti qui est attaché à la question productive. Très profondément.
Oui.
C'est sa culture depuis toujours.
Ce qui n'est plus tout à fait la culture de l'avenir en commun et du projet de Jean-Luc Mélenchon.
On nous a caricaturé en nous disant que nous étions des productivistes.
Oui.
Mais il ne faut pas confondre la culture productive et le productivisme imbécile
que
nous impose la concurrence. Parler sauvage
d'environnement, la fermeture des centrales nucléaires, c'est toujours un point de divergence avec Jean-Luc Mélenchon.
Il y a un débat sur cette question parce que la manière dont nous voulons conduire la transition énergétique. Non, il y a des choses qui sont communes parce que nous sommes d'accord sur le fait de conduire une transition énergétique. Comment nous allons le faire en atteignant dans un premier temps et rapidement les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique? Là-dessus, effectivement, nous avons une discussion qui est connue et qui n'est pas nouvelle, qui existait déjà et que nous continuons à débattre. Mais j'en débat tous les jours avec des écologistes. Et croyez-moi, il y a un débat beaucoup plus fécond entre les communistes et tous les courants écologistes sur cette question qu'on veut bien le dire.
Une erreur, pardon, à confesser. Voilà, un petit mea culpa. Oui, Combini, c'est pas seulement dédié aux jeux vidéo, ça traite de l'actualité en général et de la pop culture en particulier. Voilà, une rectification à faire pour ce site Combini. Dans un instant, Augustin Trapenard et Nicole Ferroni.